Canal Sud 92.2. Bonjour tout le monde. On pourrait commencer cette émission de Contre-Histoire par une conversation de comptoir. Ça tombe bien, on ne sera pas en retard pour l'apéritif. Écoutons donc ce qui se passe au comptoir du café Gouyaweb à Cayenne. Les 25 septembre et les jours suivants. Sujet du jour, la vaccination anti-Covid, bien sûr. Alors je vous transcris ici, textuellement, les commentaires des lecteurs du journal en ligne Gouyaweb. Les gros mots, c'est pas moi. Voici d'abord El Matador, un habitué, un qui sait de toute évidence. La Guyane a un potentiel touristique pour les nostalgiques du Moyen-Âge, de l'obscurantisme, des traitements à base d'exorcisme ou de saignée. Tous les fous les plus sectaires de la terre vont débarquer chez nous. Et voici Duck, un grand-père qui parle peu mais parle net. Je suis prêt à passer la troisième dose. L'objectif est d'éviter toute forme grave du Covid. Mac Anahan, lui, avec ses petites lunettes, semble venir tout juste de quitter sa classe. Il a l'air désabusé. Décidément, on a bien mal enseigné les sciences, dont les sciences de la vie et de la terre, dans la région. Le vaccin est pourtant une bénédiction, mais certains apôtres et élus, faisant leur beurre de la situation, prêchent exactement le contraire à une majorité confinée dans l'ignorance. Les thèses les plus folles circulent sur WhatsApp, Twitter, Facebook. Bravo, monsieur Serville, vous nous montrez que l'on peut être élu président de région sans aucun courage politique. Morvandio anime souvent les débats à Gouyaweb, ou place des palmistes quelquefois. C'est un homme de conviction. Autant la liberté de choisir de se vacciner ou pas doit être garantie dans la population générale, autant la responsabilité des élus est dans la situation actuelle pleinement engagée, lorsqu'ils s'abstiennent de toute position publique dans la préservation des vies. Il ne coûtait pourtant rien à M. Serville ou Mme Taubira de dire « Chacun est libre de se vacciner ou pas, mais nous savons que le vaccin peut sauver la vie des personnes à risque qui aujourd'hui remplissent hôpitaux et morgues. Si vous êtes à risque, vaccinez-vous. » L'État a également certainement fait une erreur en misant sur la vaccination pour tous au détriment d'une campagne ciblée envers les personnes souffrant de comorbidités connues. La dernière campagne de l'ARS, interpellant directement les enfants à partir de 12 ans pour se faire vacciner, est également une erreur de communication qui va nourrir les antivax radicaux. C'est aux parents qu'il faut s'adresser. Les mineurs n'ont pas à prendre cette décision. S'il est difficile de reprocher à l'État d'en faire trop, c'est bien le silence inexplicable des élus guyanais qui apporte aujourd'hui caution au délire haineux des antivax de l'UTG, l'Union des travailleurs de Guyane, proche de la CGT. La responsabilité des élus locaux est chaque jour de plus en plus engagée dans les décès liés au Covid des malades guyanais. Comment expliquer que des personnes, se sachant à risque de mourir du Covid, refusent de se vacciner? Quand un élu guyanais suggère publiquement que la pharmacopée pays, c'est-à-dire des herboristes, peut se substituer au vaccin qu'il refuse de promouvoir, même à minima, aux personnes à risque, est-ce qu'il ne porte pas clairement une responsabilité dans les conséquences sanitaires présentes et à venir? Si des associations peuvent en toute liberté faire obstruction au travail de prévention de la Croix-Rouge, par exemple. Ne peut-il pas y avoir d'autres qui attaqueraient enfin en justice la responsabilité de ces élus? Et Rubin O viendra peut-être un jour en live au micro de Contre-Histoire, car il annonce que l'histoire retiendra qu'une épidémie mondiale a eu pour conséquence inouïe dans les annales médico-sociologiques qu'un virus a priori sans rapport avec le quotient intellectuel des individus aura pourtant divisé radicalement l'humanité en deux catégories antagonistes, les sensés et les demeurés. La seconde catégorie sera plus particulièrement illustrée par le cas d'un territoire a priori anodin, la Guyane française. Aucun vaccin ne sera trouvé contre la débilité dans ce territoire. Les protestations, grèves, blocages, menaces et violences pour obtenir un vaccin et obliger par la force la population à se vacciner contre la dite débilité n'y pourront rien. La Guyane française sera déclarée par l'OMS et l'ONU comme territoire en danger imminent et irréversible de disparition de l'intelligence.
Il avait nos cornes de roc, au guet, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand, au guet, au guet. Il avait nos cornes de roc, au guet, au guet, tout le monde peut pas s'appeler Durand, au guet, au guet. En le regardant avec un œil de poète, on aurait pu croire à son frontal de prophète, qu'il avait les grandes eaux de Versailles dans la tête, cornes de roc. Mais que le bon Dieu lui pardonne, au guet. Au guet, c'était celle du robinet. Au guet, au guet, que le bon Dieu lui pardonne. Au guet, c'était celle du robinet. Au guet, au guet.
Émir 415. Je crois que je la connais. Savante, pratique, positive, énergique. Voilà son point de vue ce 26 septembre. Bonjour. L'instauration programmée du pass sanitaire et les sanctions à l'encontre des soignants non vaccinés allaient faire l'objet de mesures adaptées et plus souples en Guyane. Faut savoir, un jour la Guyane veut disposer des mêmes droits et mêmes devoirs que la métropole. Et le lendemain, eh ben nous c'est pas pareil, notre culture, notre passé... Les exceptions sont nécessaires. Franchement, un jour faudra être adulte. Snoopy, le plus jeune de la bande, ne manque pas de clairvoyance. Le drame de la Guyane, dit-il, est bien celui de ses élus. Manifestement, il est plus facile de mentir, de dénigrer, d'insulter, de manipuler, d'agresser, que de prendre le temps de la réflexion, de la persuasion, de l'entraide et de la solidarité. Christiane Taubira et Georges Patient, le sénateur, l'ancien maire de Mana, mentent. Ils sont restés muets, bien après le déclenchement de la campagne de vaccination. Ils ont, par leur silence, encouragé les attaques contre ceux qui sont engagés dans la lutte contre la Covid. Ils ont ainsi, avec l'aide de Gabriel Serville, enfanté les comités et milices et leur ont servi de porte-voix. Serville ment et manipule. C'est moralement un individu douteux, un petit. Avec les deux autres, ce sont des calamités pour la Guyane. Et Kita apporte sa pointe de lucidité mordante. Notre président est dangereux. Les manœuvres politiques pour tenter d'obtenir un rapide changement de statut, tous les feux, au sens propre et figuré, allumés dans les quartiers, pour essayer de désigner l'État français comme seul responsable de la crise sanitaire et sociale actuelle, sont à vomir et à condamner. Changer de statut? Pourquoi? Pour donner plus de pouvoir aux psychopathes? L'idée serait attrayante si elle allait vers une réelle évolution. Actuellement, nous régressons vers plus de bêtises, de violences et de manipulations létales de la population. C'est laid, très laid. Rien d'étonnant que la fuite des cerveaux et des travailleurs, en général, s'accélère. Et Bello, 973, répond énergiquement à Morvandio, qui s'est fait un peu noyer dans la tempête des intervenants. Ça pose quand même un cas de conscience. En prenant publiquement la défense du libre choix des non-vaccinés, d'un certain point de vue, Servi s'est surtout fait le promoteur de la liberté de conscience individuelle face à l'intérêt collectif. Un non-vacciné fragile se met lui-même en danger en refusant de se faire vacciner. Mais c'est sa liberté de choix. Un non-vacciné bien portant ne met en danger que les autres en refusant de se faire vacciner. Risque de contagion plus important, comme le rappelle l'Institut Pasteur. Mais c'est aussi sa liberté de choix. Les uns sont suicidaires, inconscients ou irrationnels, puisqu'ils jouent avec leur vie en dépit du danger. Les autres sont au contraire ultra précautionneux et hyper rationnels, au point d'en être même parfois cyniques, puisque du moment qu'eux ne risquent rien ou pas grand-chose, ils choisissent de prioriser leurs doutes, même parfois infimes, sur l'innocuité du vaccin, plutôt que de contribuer à préserver la santé des plus fragiles. Car telle est bien leur liberté de choix, dès lors qu'ils choisissent librement de ne pas participer totalement et sans réserve à cette lutte collective contre la circulation du virus, en refusant eux aussi la vaccination. Et en gros, au sein de cette société d'antivax qui ont peur du vaccin, les bien portants diraient donc aux mal portants « Bon, ben, puisque c'est vous qui êtes les plus fragiles et qui risquez votre peau, c'est à vous de prendre le risque, pas à nous. » Avec ce produit que vous et nous jugeons suspect.
Il proclamait à son de trompe à tous les carrefours. Il n'y a que les imbéciles qui sachent bien faire l'amour. La virtuosité, c'est une affaire de balourd. Corne d'Europe.
Ça peut soulever une question d'éthique dans une société qui se voudrait solidaire. Il y a donc aussi cet autre versant de conscience morale, incitant à ne pas trop vite se résoudre, face à une commune peur du danger, à ne demander qu'aux plus fragiles et aux seuls exposés de se montrer plus courageux ou plus responsables que les bien portants, qui, eux, peuvent effectivement se permettre de rester en retrait dans cette lutte collective face à l'épidémie. Même si je pense qu'il a tort, c'est peut-être cet aspect moral, entendable, qui explique ce silence de Serville envers les plus fragiles. Il lui en coûte peut-être de désigner ses plus faibles, qui auraient à se montrer plus courageux que les autres, puisqu'ils n'auraient en fait pas vraiment le choix. La liberté de choix ne valant finalement plus que pour les bien portants. La responsabilité d'un leader, c'est pourtant d'inviter tout le monde à se montrer courageux et collectif face au danger, sans fatalement distinguer entre les faibles et les moins faibles lorsqu'il s'agit de transcender sa peur. Cette responsabilité individuelle des bien portants que Serville devrait donc également solliciter réside dans le fait qu'ils se doivent eux aussi de faire l'effort de transcender leur peur, potentiellement déraisonnable, du vaccin, au bénéfice de la collectivité, y compris de celle qui a eu une peur bleue au point d'aller jusqu'à mettre sa vie en danger. Serville n'a donc pas à se contenter de faire des choses qui ne coûtent rien. Car il pourrait en revanche acquérir une toute autre stature, en faisant venir la presse dès demain à l'Ancre, le haut lieu culturel guyanais, lieu de conférences, d'expositions, de théâtre, de cinéma, etc. Pour expliquer qu'il a personnellement très peur du vaccin, si c'est bien le cas, mais qu'il se fait quand même vacciner pour montrer l'exemple et par solidarité avec 75% du reste de ses concitoyens nationaux, 20% de ses concitoyens locaux, pour l'immense majorité des bien portants, qui, eux, ont accepté de prendre leur part de risque dans l'intérêt de tous, au service de cette lutte collective. Et Bello 973 nous donne encore des clés documentées pour mieux saisir la réalité guyanaise. Vous aurez les liens sur la page de podcast. Voilà son propos. À part la théorie commode selon laquelle les 70% de réfractaires au vaccin, environ 150 000 personnes le refusant encore, seraient simplement des moutons, captifs des agitations d'Olivier Goudet et sa clique des trop-violences, ou attendant juste que Serville, qui a recueilli 25 000 voix aux élections, par rapport aux 75 000 qui ont voté pour Rodolphe Alexandre ou qui se sont abstenus, en attendant que Serville leur montre le chemin, on peut sérieusement s'interroger sur les raisons profondes d'une telle défiance. En Guyane, une personne sur trois est plus ou moins touchée par l'illettrisme et n'a donc pas assez accès à la connaissance scientifique de base lui permettant de se rassurer par elle-même sur l'innocuité du vaccin. C'est peut-être une explication partielle. Les croyances religieuses, intuitivement, ça ne s'expliquerait que pour certains milieux très traditionnalistes. En Guyane, on a peu d'infos sur l'étendue de ces courants. Il est donc difficile de se faire une idée sur l'influence réelle de cet aspect. Mais ça doit jouer, en partie. Il y a aussi l'égoïsme ou l'individualisme de ceux qui, sans être fondamentalement anti-vaccins, ne se sentent pas personnellement en situation de risque par rapport à l'épidémie et qui s'estiment donc autorisés à décliner l'invitation à l'intérêt collectif, au civisme par la vaccination prônée par les autorités. Et là, il est vrai que la Guyane a une population très jeune, se sentant très peu concernée par le risque sanitaire.
Il potassait à la chandelle, au guet, au guet, les traités de maintien sexuel, au guet, au guet, et sur les femmes nues des musées, au guet, faisait le brouillon de ses baisers, au guet, au guet.
Et The King met vigoureusement les points sur les i, et c'est pas du luxe. Je suis vacciné 2 doses. Malgré tout, je prends des précautions, masque et lavage des mains. Moi, je pense aussi que certains ont fait des études scientifiques à l'université de Troupoisson. Vous savez, la crique de baignade et de détente près de Cayenne, dont je vous ai déjà parlé les années précédentes. Leurs connaissances sont plus « est-science ». Tout le monde est vacciné contre la fièvre jaune. Je dis bien tout le monde, y compris les anti-vax. Pourtant, 90% au moins ne savent pas ce qu'il y a dans ce vaccin. Par ailleurs, les anti-vax acceptent que leurs enfants prennent les 12 vaccins obligatoires pour entrer à l'école dès leur plus jeune âge. Heureusement que nous ne sommes pas encore indépendants, car la dictature de la caravane de la liberté serait imposée par les dictateurs. En quoi ça gêne que la Croix-Rouge installe une tente pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour être vaccinées? La liberté n'est pas respectée. Celle réclamée par la caravane m'empêche d'aller travailler. J'ai dû rattraper les heures de retard chez mon employeur à cause des personnes qui m'ont privé de ma liberté d'aller travailler pour gagner mon pain et le donner à manger à ma famille. Président de la communauté territoriale de Guyane, Serville, vous avez le postérieur entre deux chaises, puisque dès le jour de l'élection, vous étiez sûr que c'est grâce au groupe d'opposition les trop violents en partie que vous êtes élu. Les trop violents, ces 10 personnes. Vous n'avez plus de liberté.
Lol.
Au fait, où sont les vice-présidents pour qui j'ai voté? Car je n'ai pas voté pour vous. C'est par obligation de liste. Vous êtes vacciné ou pas? La transparence doit être de rigueur en tant que président. Et Frog, ce 28 septembre, rend à César, pardon, à Serville et aux autres, ce qui leur revient. Les décès sont à imputer au Covid, mais aussi à Serville, au collectif et à la ribambelle de Mangemed qui nous représente. Et Micafleur ne garde pas sa langue dans sa poche. Au milieu de cet aéropage masculin en forte majorité. Écoutons-la contrer tout le monde. Frog, selon vous, les décès sont imputables au président Serville parce qu'il ne prêche pas pour le vaccin. Avant le vaccin, c'était qui le coupable? Qui a dit que les masques n'étaient pas nécessaires, que les jeunes n'attrapaient pas le virus? Docteur Macron! Vous croyez qu'un sénateur ou un président va me dicter sa loi? Ils sont médecins? Ne soyez pas hypocrite. Au lieu de faire tourner en boucle Covid et surtout vaccin, il faut surtout parler du port du masque et des gestes barrières. Dans les rues de Cayenne, beaucoup de citoyens se protègent très mal ou pas du tout. Le masque n'est pas un torchon qui, après avoir recueilli la transpiration sur le cou, doit être porté. Et hop, sur la bouche, sans lavage des mains. Dans le bus, vous avez des femmes enceintes qui papotent, masque baissé. Le chauffeur est obligé de faire un rappel. À la sortie des classes, les enfants enlèvent le masque, surtout les adolescents qui s'enlacent, bisous, etc. Qui est contaminé? Allez savoir. Je vis dans un quartier populaire. Certaines communautés se moquent du masque. Caravane de la liberté, vaccin, virus, un seul objectif, l'alcool, le distributeur de la poste. Sans oublier les fiestas. Je ne suis pas vaccinée. Pas besoin de caravane ou de politique pour me dicter ce que je dois faire. Sauf que je me protège. Masque FFP2, selon le lieu. Lavage des mains. Et j'évite certains magasins d'alimentation. Vacciné? J'attrape le virus, je contamine les autres. Surtout que beaucoup de non-vaccinés sont aussi imprudents que les vaccinés. Chacun ses opinions. Je ne partage pas les délires de certains, ni leurs incivilités. Mais il faut admettre que les citoyens se protègent peu ou pas du tout.
Petit à petit, au guet, au guet, on a tout su de lui, au guet, au guet. On a su qu'il était enfant de la patrie, qu'il était incapable de risquer sa vie pour cueillir un myosotis à une fille corne d'Europe.
Et voilà Gloubi Boulga, logique et claire malgré son pseudo. On peut penser ce que l'on veut du vaccin. Mais deux faits sont établis. Il ne présente pas de danger significatif. Et si tout le monde était vacciné, la situation sanitaire serait bien meilleure. Un autre fait établi, les gestes barrières réduisent la transmission. Et Kunhado, de même, ce 29 septembre 2021. Une preuve irréfutable. En métropole, depuis une semaine, le nombre de décès en dessous de 50 ne cesse de baisser. On peut penser qu'à la longue, plus de gens sont vaccinés, 70%, et moins y a de morts, ce qu'il fallait démontrer. Et enfin, ce 1er octobre, un message particulier, adressé directement à Madame Taubira, qu'on a tant aimée. Christiane Taubira, petite femme, universellement reconnue comme une grande dame, une très grande dame, celle qu'on aime et qu'on attend, celle qu'on écoute, qui nous a appris que la seule indemnisation de l'esclavage et de la colonisation, c'est la vérité. Et la vérité, ça s'apprend à l'école. où on doit apprendre à réfléchir, à remettre en question nos ancêtres les Gaulois, tout comme les discours populistes, démagogiques et complètement racistes du Rassemblement national. L'école et l'université, où l'on apprend à douter, à chercher, à découvrir, à vérifier, à refuser d'obéir à ce qui est contraire aux valeurs de la République, à ce qui contredit la devise « liberté, égalité, fraternité ». L'école et l'université, où on doit apprendre aussi à se remettre en question pour ne pas rester prisonnier de bonne foi, de préjugés hérités de religion ou de rancune, terrain si fertile à l'ignorance et à la passivité, à la faiblesse. Rappelons-nous Brassens et son personnage, Cornedo-Roc. La seule indemnisation de l'esclavage et de la colonisation, c'est une éducation nationale à hauteur des besoins de tous et partout. Mais comment soigner ou protéger des gens qui préfèrent aller à l'abattoir en chantant des cantiques? Résultat des investissements Ariane et de la Montagne d'Or, car c'est reparti en catimini. Investissement qui laisse des milliers d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants non scolarisés, des adolescents sans espoir et des jeunes au chômage, lesquels votent et voteront bientôt Servilles avec ferveur, comme leurs parents. Alors, lettre ouverte à Madame Taubira. Madame, si vous n'êtes pas que la star qui met à ses pieds toute l'Assemblée nationale pliée de rire devant ses assauts d'intelligence pétris d'humour et de culture, si vous êtes aussi la militante des droits humains saluée de partout, alors, madame, pourquoi restez-vous silencieuse quand votre peuple souffre et croit sanctifier son histoire et sa dignité en refusant les vaccins qu'il juge colonialistes, en se trompant d'ennemis, en écoutant peut-être les sirènes d'étudiants partis aux États-Unis faire le plein des rêves des Black Panthers, avec le même sursaut de fierté mal placée que le personnage de Brassens? Ce peuple est en train de mourir de cette erreur. Et vous laissez faire. Pire, vous prétendez que vous n'avez pas vocation à appeler les Guyanais à se faire vacciner. C'est la trahison suprême. Qu'ils meurent ou pas, ce n'est pas votre problème. On croyait au contraire que votre vocation, c'était de défendre ce peuple, de lui rendre dignité et prospérité, en œuvrant pour son éducation, sa formation, sa santé, bien sûr, dans un environnement protégé. Environnement protégé des pollutions capitalistes et mentales, des néocolonialistes à l'affût des richesses amazoniennes, fidèlement secondées par les églises nord-américaines, repeintes aux couleurs locales par des emprunts vaudous. Car enfin, quand il y a crime, on se demande toujours à qui profite le crime. Et comme par hasard, on s'active ferme depuis quelque temps, dans la reprise des négociations au sujet de la Montagne d'Or. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Mais pourtant c'est une évidence. Moins il y aura de Guyanais, ou en tout cas plus la population sera affaiblie, épuisée, meurtrie, vaincue, plus il y aura de place pour Ariane et la Montagne d'Or.
Qu'il avait un petit cousin, au gué, au gué, au placé chez les argousins, au gué, au gué, et que les jours de pénurie, au gué, au gué, il prenait ses repas chez lui, au gué, au gué.
Je délire, moi aussi, à ma façon. Pas si sûr, pas si sûr. Non, bien sûr, la Covid, c'est pas un coup des évangélistes. Mais ça a créé une situation nouvelle, très favorable à une reprise en main des richesses guyanaises qui font tellement saliver les extractivistes du grand capital, de tout poil et de tous horizons. 85 tonnes d'or à la clé, rendez-vous compte, pour les Russes et les Canadiens? Ce qui se passe en Guyane en ce moment est une honte pour toute la France et pour vous, madame, en particulier. Car on compte 269% d'occupation des lits en réanimation en Guyane, c'est-à-dire bien sûr transformation des lits d'hospitalisation non-Covid en lits de réanimation Covid, et tant pis pour les autres malades. Tous les malades Covid hospitalisés en Guyane sont des non-vaccinés. Les Guyanais ne peuvent pas voyager sans motif impérieux, mais les supporters de l'euro ont sillonné les pays surinfectés sans contrainte. Et depuis quelques mois, tout le monde bénéficie des collectes de virus faites par ses supporters zélés dans les pays les plus touchés. Ainsi, le 8 juillet 21, une dépêche de l'AFP confirme. En France, dans les Vosges, un foyer de variant Delta détecté chez des supporters de retour de l'euro. La préfecture des Vosges a annoncé la détection d'un foyer de 9 cas positifs au variant Delta du Covid-19, des supporters de retour de Hongrie où ils ont assisté à un match du Portugal à l'euro de football, selon un élu local. L'Agence régionale de santé Grand Est a confirmé que la contamination avait eu lieu dans le cadre d'un déplacement à l'étranger, sans plus de précision. La Puskás Arena, stade de la capitale hongroise, est la seule enceinte de la compétition dont la jauge était à 100% remplie avec port de masque facultatif. L'ARS et la préfecture des Vosges ont annoncé la mise en œuvre d'opérations de dépistage gratuits et de vaccination sans rendez-vous, afin d'éviter la diffusion dans le département du variant le plus contagieux.
C'est même en revenant chez cet antipathique qu'il tomba victime d'une indigestion critique et refusa le secours de la thérapeutique Corne d'Europe. Parce que c'était à un Allemand, au guet, qu'on devait le médicament, au guet, parce que c'était à un Allemand, au guet, qu'on devait le médicament, au guet.
Le 26 juin 2021, Saint-Pétersbourg a enregistré 107 décès en 24 heures. Chiffre qui, selon les agences de presse russes, est le plus élevé de toutes les villes du pays depuis l'apparition du virus. Ville très prisée des touristes, l'ancienne capitale impériale a accueilli un total de 7 matchs de l'Euro. Il restait un match à disputer dans la ville avec potentiellement la France si elle battait la Suisse d'ici là. La Russie, dans son ensemble, a enregistré fin juin 21 665 nouvelles contaminations. Hormis Saint-Pétersbourg, Moscou et sa région sont également durement touchés depuis quelques semaines. Le nombre de décès quotidiens dans tout le pays est alors le plus élevé depuis décembre avec 619 morts pour un total de 132 683 depuis le début de la pandémie. Mais l'agence des statistiques Rosstat, elle comptabilise quelque 270 000 morts entre le début de la pandémie et fin avril 2021. Pour stopper la pandémie, une chose est nécessaire, des vaccinations massives et rapides. Personne n'a inventé d'autres solutions, a martelé à la télévision le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. Pour résoudre fondamentalement ce problème, il faut se faire vacciner ou se résoudre à un confinement, a-t-il ajouté. Enfin, le 1er juillet 2021, l'OMS Europe a appelé à mieux suivre les spectateurs, et pas seulement dans les stades, alors que les cas augmentent dans les villes organisatrices des matchs de l'Euro, Londres, Bakou et Saint-Pétersbourg. Selon Hans Kluge, directeur de l'OMS pour l'Europe, après 10 semaines de baisse, le nombre de cas a augmenté de 10% dans les 53 pays d'Europe en raison de l'augmentation des brassages, des voyages, des rassemblements et de l'assouplissement des restrictions sociales. Et comme le député anti-vaccination vient d'être élu président de la communauté territoriale de Guyane, c'est pas prêt de s'arranger. Alors voilà un extrait de Libération du 25 septembre. Impossible de ne pas penser aux propos très critiqués de Christiane Taubira, figure du territoire, qui a dit ce 23 septembre ne pas avoir vocation à appeler les Guyanais à se faire vacciner. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, Gabriel Serville, ne s'engage pas beaucoup plus. « Je ne peux pas appeler clairement la population de la Guyane à aller se faire vacciner parce que je ne suis pas particulièrement convaincu que c'est la démarche qu'il faut que j'initie aujourd'hui », a-t-il esquivé sur BFM le 24 septembre, arguant qu'il n'avait pas été élu pour ça. On se demande alors pourquoi ils ont été élus si ce n'est pas pour défendre et protéger leurs concitoyens.
Il rendit comme il put son âme machinale, et sa vie n'ayant pas été originale, l'État lui fit des funérailles nationales, corne d'aurore.
Et cette dépêche AFP du 25 septembre, Covid-19, un niveau de décès jamais atteint en Guyane. Jamais la Guyane n'avait enregistré autant de décès et d'admissions en réanimation depuis le début de l'épidémie de Covid-19, a alerté vendredi le bulletin épidémiologique de Santé publique France. Depuis les 7 derniers jours, 21 Guyanais ont succombé au Covid-19, chiffre jamais atteint. Une hausse des hospitalisations Covid en pédiatrie est constatée depuis 3 semaines. Les moins de 20 ans représentent 9% des hospitalisations, le double de leur taux à la troisième vague, selon Santé publique France. Le variant Delta a été soupçonné dans 99% des tests positifs criblés la semaine dernière. Sous forte crispation d'une partie de la population et de personnel soignant opposés à la vaccination obligatoire, les directions et chefs de service des 3 hôpitaux de la région où sont actuellement admis 130 patients pour Covid-19, dont 31 cas sévères, ont mis en garde mercredi devant la presse contre le risque généralisé de tri des patients. Le tri des patients, on sait ce que c'est. Hein. On s'occupe de ceux que l'on peut sauver. Au centre hospitalier de Cayenne, selon son directeur Christophe Robert, interrogé vendredi 24 septembre par l'ASP, 52,4% des personnels sont vaccinés avec au moins la première dose, ce qui leur permet d'être maintenus en poste, dont 96,1% pour les médecins et internes, 52% les infirmiers, 40% des aides-soignants, 23% pour les agents des services hospitaliers. J'essaie de comprendre pourquoi les gens ne veulent pas se faire vacciner, alors que nous subissons des vagues de plus en plus graves, a exprimé mercredi sur Guyane la Première Didier Guidoni, directeur de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni, à la frontière du Suriname, secteur où le taux d'incidence est passé de 331 à 555 la semaine dernière, soit un bond de 68% de contamination. Sur ce territoire de 300 000 habitants, où un habitant sur deux a moins de 25 ans, la vaccination est toujours à la peine, avec 30,5% de personnes présentant un schéma vaccinal complet chez les plus de 12 ans. C'est la couverture vaccinale la plus basse des régions françaises, avec la Guadeloupe. 30% de la population majeure est certaine de ne pas se faire vacciner, indiquait la dernière étude de l'Institut Pasteur de Guyane, expliquant cette situation par le manque de confiance envers les autorités locales et dans le vaccin, et par un sentiment de protection acquise au cours des vagues précédentes du Covid-19. Personnellement, je crois modestement que les Guyanais se trompent d'ennemis, tout simplement. Victimes historiques des gouvernements français successifs depuis des siècles, ils refusent tout en bloc quand ça vient de la métropole. On préfère à Cayenne risquer sa vie plutôt que d'obéir à Macron. Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, arrivé vendredi 24 septembre en Guyane, fait espérer au Guyanais Guy Frédéric, militant de la première heure du parti local Valvary, à tendance socialiste, cofondé avec Christiane Taubira. On attend un moratoire pour la mise en place de la vaccination obligatoire, car je ne vois pas comment on pourrait suppléer une vague de suspension de soignants non vaccinés. En tout cas, l'ARS ne répond pas à cette question. Président de cette association qui prône le droit à la santé pour tous, mais qui s'oppose à l'obligation vaccinale des soignants, Guy Frédéric a perturbé avec des manifestants un point de vaccination organisé par la Croix-Rouge lundi 20 septembre à la périphérie de Cayenne.
Alors sa veuve en gémissant, au gué, coucha avec son remplaçant, au gué, alors sa veuve en gémissant, au gué, coucha avec son remplaçant, au gué.
Les autorités recensent depuis le début de la pandémie plus de 250 décès liés au COVID-19 en Guyane, dont un quart ces derniers 45 jours, ce qui marque bien l'accélération des contaminations mortelles.
Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. L'habitant plante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant, pas le droit de dire comment. Taureau du Honduras, c'est bon pour le Texas, pour les petits y'a que les os. La viande c'est pour les gros, c'est pour tous les bandits, ceux du même acabit. Diamant de Bokassa, ça c'est secret d'état, faut pas poser de questions quand on est juste un pion. Le rhum jamaïcain dans le gosier londonien, le riz du Vietnam, demande à l'oncle Sam s'il l'a bien digéré. Tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au cou de la belle. Tous les rois, même les sots, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris, le café du Uruguay se déguste à Broadway, mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères coupent la canne et leur machette dessus, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent, un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au cou de la belle. Tous les rois, même les sots, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris. Le café du Uruguay se déguste à Broadway. Mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères groupent la canne et leur machette dessus. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent. Un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris.
Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour.
Et comme complément, on peut situer aujourd'hui le CRA de Guyane en Absurdistan, en toute logique. Les conditions d'accueil dans les centres de rétention se sont dégradées durant la pandémie, selon la CIMAD et plusieurs associations qui viennent de publier leur rapport annuel sur les conditions d'hébergement dans les centres de rétention en France, comme je vous en ai abondamment parlé il y a quelques semaines. Le centre de Matoury, près de l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué, ne fait pas exception à la règle. Ce 11e rapport sur les centres de rétention dresse un nouveau carton rouge à la politique de l'État dans son action de lutte contre l'immigration irrégulière. Une politique d'enfermement soutenue malgré les risques sanitaires. Et c'est l'heure du bilan. En 2020 en France, 28 000 personnes ont été enfermées en centres de rétention. Dans les Outre-mer, un peu plus de 15 000 sont passées par ces structures. En Guyane, 567 individus y ont été retenus, alors que la France luttait contre le coronavirus. Un grand nombre d'organisations ont dénoncé le contexte d'enfermement, des rétentions qui se sont enchaînées, alors même que les mesures sanitaires étaient notoirement insuffisantes. La gestion dans les CRA a été à l'origine de nombreux recours abusifs à la rétention. Sur les 567 personnes enregistrées au centre de rétention en Guyane l'année dernière, 217 venaient du Brésil, 165 d'Haïti ou encore une quarantaine du Suriname. Entre mi-mars et fin août, l'ensemble des ressortissants surinamiens, guyaniens et brésiliens ont été libérés par le juge judiciaire. Et nous retrouvons nos amis de la CIMAD et de Campus pour un petit tour triste en Absurdistan. Ben oui, on n'est pas là pour s'amuser. Aujourd'hui, du moins. On essaiera de faire plus gai la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, vaccinez-vous et maintenez les gestes barrières. Si, si, absolument.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. La CIMAD, association de solidarité, agit avec les personnes migrantes depuis 1939. Elle défend leur accès aux droits jusque dans les lieux de privation de liberté. La CIMAD va à la rencontre de ces personnes, enfermées pour le seul fait d'être en situation irrégulière sur le sol français. Absurdistan. Un rendez-vous radiophonique proposé par la CIMAD en partenariat avec Campus FM. Préparé et présenté par les intervenants et bénévoles de la CIMAD au centre de rétention de Toulouse.
Je vais un mardi à 2h au tribunal judiciaire de Toulouse, dans la salle d'audience numéro 3. C'est là que le juge des libertés est chargé de dire aux personnes qui ont été placées au centre de rétention de Cornebarieux si elles vont y rester Pour combien de temps ou non? Dans la salle, il y a quelques personnes. Au premier rang, deux ou trois hommes assez jeunes. Et puis une dame d'un âge très certain. Tout autour de la salle, il y a six policiers de la police aux frontières. Deux avocats, un représentant de la préfecture et au fond un peu de public. Dont le fils de cette dame, qui en réalité vit en France depuis très longtemps. Il y a longtemps, elle a vécu en France pendant 16 ans. Elle est veuve, mais son mari touchait une retraite française. Donc elle était venue vivre avec ses enfants. Elle a été placée au centre de rétention par la préfecture de Haute-Vienne deux jours avant. On attend la juge. Elle finit par arriver. Elle écoute d'abord cette vieille dame. Les circonstances de son arrestation sont très particulières. Il y a 2 ans, après plusieurs récépissés avant d'obtenir un titre de séjour, elle avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour en France pendant 2 ans, malgré des enfants et des petits-enfants en France. Elle était restée, elle avait refusé d'embarquer. 1 an plus tard, alors que cette obligation de quitter le territoire n'était plus valable, elle apprend que la police la cherche. Alors, elle se rend spontanément au commissariat. Et là, sans coup férir, sans lui dire que puisqu'elle s'était présentée volontairement, elle pouvait partir, elle est arrêtée et placée au CRA. Je vous rappelle que cette dame est d'un âge très certain. Au seul motif qu'elle n'aurait pas respecté l'interdiction du territoire. Lorsque la juge est arrivée, elle a donc commencé par écouter cette dame. Cette dame s'est avancée. Et puis elle s'est écroulée, elle s'est évanouie. Et c'est là qu'on a appris qu'elle avait plus de 70 ans. L'audience a été interrompue, on a dû appeler les pompiers pour la secourir. Et elle n'a pu revenir devant le juge qu'une heure et demie plus tard. L'avocat qui la défend explique combien cette situation est absurde, encore plus absurde s'agissant d'une dame de cet âge, visiblement en très mauvaise santé. D'abord, la police n'avait pas le droit de l'arrêter. À partir du moment où elle était venue volontairement, on devait lui dire qu'elle pouvait repartir. Sinon, c'est une attitude déloyale car vous n'avez aucun moyen de vous défendre. Ensuite, comme l'obligation de quitter le territoire n'était plus valable, et bien l'interdiction de retour sur le territoire français non plus. Et c'est d'ailleurs ce qu'a plaidé l'avocat. Et il a gagné. Cette décision a fait jurisprudence. Donc le juge a libéré cette dame. Et cette décision était importante pour tous les étrangers. Parce que, effectivement, il faut savoir que le bannissement, cette interdiction de retour sur le territoire français, est aujourd'hui prononcé par les préfectures de plus en plus souvent pour empêcher les gens de revenir. Bref, cette dame a été libérée, mais néanmoins, on lui a quand même passé les menottes pour rentrer au centre de rétention où les formalités de libération devaient être effectuées quelques heures plus tard, c'est-à-dire peut-être vers 10h ou 11h du soir, où son fils pouvait venir enfin récupérer sa mère. Voilà les absurdités de la rétention.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMAD, lacimad.org/publication. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole qui intervient au CRA, contactez-nous au 05 61 41 13 20 ou par mail toulouse@lacimad.org. Ainsi s'achève le billet radiophonique de nos voyages en Absurdistan, pays abracadabrantesque et désespérant que nous vous ferons visiter régulièrement au travers des témoignages de nos visites de personnes retenues, ainsi que de points d'information générales sur ce système et sur la vie au CRA de Corne-Bario. À bientôt.